là qu'on est pleinement de joie et le visage ne se couvre pas de l'ombre. Quand on parle de cri, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. J'aimerais ce matin vous poser une question. J'aimerais que ceux qui ont été sauvés à travers une grande croisade d'évangélisation, j'aimerais que vous leviez la main. Hein? Maintenant, ceux qui ont été sauvés par une personne qui vous a témoigné personnellement, levez la main. Seulement ce groupe-là. Ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est par un témoignage personnel qu'on vient à la connaissance de l'Évangile. C'est pour ça que c'est très important de témoigner ce que tu as fait dans ta vie envers les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, mon témoignage, bon, c'est assez long, mais je ne peux pas raconter toute ma vie parce que ça serait trop long. Moi, j'ai été converti en 85, mais avant ma conversion, j'ai eu une vie, bon, assez normale. Je suis né dans une famille, on était 50 ans, et puis avec un père et une mère qu'ils étaient toujours unis par les liens du mariage, qui s'aimaient, qui nous ont montré de l'amour, de l'affection, et qui nous ont enseigné ce qu'ils ont pu recevoir de leurs parents, c'est-à-dire la religion traditionnelle qui existe encore aujourd'hui. Et puis moi, j'étais le dernier né de la famille de 50 ans. J'ai deux frères avec deux sœurs et on était trois gars de filles. Et moi, j'étais le dernier de la famille. Étant donné que j'étais le dernier, j'étais comme le petit bébé, mais en même temps, c'est comme si je me sentais aussi un peu mis à part, mis à côté, un peu mis à l'écart, parce que, j'avais le sentiment que j'étais pas comme... C'est comme si plus tard, ma mère m'a dit que, quand elle était enceinte de moi, elle a dit « pas encore ». Ça faisait son cinquième, puis c'est comme si c'était un peu un accident que je suis arrivé là. Gloire à Dieu, un gros accident. Parce que ma mère, elle était déjà en train d'allaiter mon frère, et puis elle était enceinte de moi. Alors après eux, on dit « on dit cata ». Amen. On appelle ça « on dit cata ». C'est ça que j'ai fait, moi. Dans le sens de ma mère, pendant que ma mère est en train d'allaiter mon frère Robert. Et puis je suis né dans une famille qui nous ont montré de l'amour, de l'affection. J'ai grandi comme ça, j'étais allé à l'école comme tous les enfants. Et puis même moi, j'étais un genre de personne qui était timide. J'avais comme peur du lendemain, peur de qu'est-ce que l'avenir me réserve ou peur de qu'est-ce qui peut m'arriver. J'étais comme beaucoup enfermé, puis j'avais de la difficulté à me faire des amis. À me faire des copains. J'allais à l'école, et puis quand c'était l'école était finie, j'en venais chez moi, et puis je m'amusais beaucoup avec mon frère, on avait un an de différence, un an et quelques mois de différence. Et je m'amusais beaucoup avec lui à la maison. Et puis c'est comme si mon frère est devenu pour moi une espèce de modèle que je le suivais partout, tout ce qu'il faisait, je le faisais, il s'assoyait, moi je m'assoyais, il se levait, je me levais. C'était devenu pour moi comme un modèle, je cherchais à savoir comment vivre ou comment faire les choses en regardant l'exemple sur mon frère qui était un an de différence avec moi. Et puis j'ai fait mes années scolaires, de la première à la sixième année. Et puis je me souviens que à l'époque, à chaque vendredi à l'école, il y avait une bataille. Qui c'est qu'on prenait pour battre? Eh bien, c'est moi. On me battait. Pourquoi? Je ne savais pas. Pour moi, il ne m'aimait pas la face ou je ne sais pas quoi. Et puis on me battait. Des fois, c'était un autre, mais la majorité du temps, c'était moi. Et puis j'arrivais chez moi en pleurant. Je me défendais pas. J'étais timide et puis j'étais un peu enfermé en tant que moi. Et puis c'est comme ça que j'ai vécu une enfance, plus plus ou moins normal comme tous les enfants qui vivent aujourd'hui. Et puis bon, lorsque j'ai fini mon école primaire, ça veut dire en sixième année, à cette époque-là, j'avais environ 11 à 12 ans. Et puis je me souviens que l'année que mon frère, lui, il avait fini son sixième année avant moi, il m'a devancé dans la prochaine école, qui c'est l'école secondaire. Et puis quand il m'a devancé, lui, dans son année scolaire, pendant que moi j'étais en sixième année, lui dans son erreur, lui ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, parce que mon frère, lui, était une autre sorte de style de gars qui était très ouvert, tout le monde le trouvait cool, tout le monde l'aimait, tout ça, et puis, mais moi j'étais l'autre style qui était renfermé. Là, mon frère, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, vous allez voir l'année prochaine, mon frère va venir, et puis là, mais tout le monde s'attendait à ce que moi je sois pareil comme lui. Mais moi, j'étais pas comme lui, j'étais complètement, lui était bien un excité extérieurement, mais moi, j'étais très renfermé. Et puis bon, quand j'étais arrivé au secondaire 1, là, c'est là que ma vie, elle a commencé à être un changement assez radical, parce que, bon, en secondaire 1, j'avais à peu près 11 à 12 ans à cette époque-là. Et puis, là, quand j'étais arrivé à l'école, j'ai remarqué qu'il y avait des filles, beaucoup de filles qui me regardaient. Mais moi, j'étais très timide, très renfermé. Et puis, j'étais pas, comme on disait à l'époque, j'étais pas déniaisé. J'étais un peu renfermé en tant que moi. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que lorsque j'étais au secondaire, j'ai commencé à vouloir m'impliquer, me montrer ou avoir un style de personne pour être accepté des autres. Et puis, le style de personne que j'avais choisi, c'était une personne qui était cool ou une personne qui était rancœur. Parce que dans l'école, il y a trois styles de personnes. Il y a des personnes, on appelle ça des intellectuels, là, qui marchent avec leur petite valise, des petites lunettes rondes, qui sont toujours assis en avant dans le banc de l'école. Là. Ça, c'est un style que tu vois à l'école. Tu as l'autre style que c'est les sportifs avec leur sac d'Adidas, puis toujours en les choux, puis qui marchent, puis ils sont toujours en train de faire du sport, ils sont en train de courir dans l'école. Puis le troisième style, tu as les rockers, les autres sont assis en arrière là, de la classe, là, puis ils sont là, puis ils rient de tout le monde, puis ils lancent des gommes, puis ils font toutes sortes de plaisanteries. Mais moi, j'avais choisi ce troisième style-là, le style rocker, parce que j'avais commencé à fréquenter un gars qui s'appelait Gino, c'est un Italien. Mais lui, il avait 15 ans, parce qu'il avait doublé déjà. En secondaire 1, il avait 15 ans, donc il avait 3 ans de différence avec moi. Mais lui, il avait déjà de la barbe, c'est un Italien, il était bien poilu, puis il avait de la barbe, puis c'était vraiment, là, il était grand, il était en secondaire 1. Fait que moi, c'est comme si je l'avais dans mon rôle en plastique, puis je me tenais avec lui, puis là, on niaisait ensemble, tout ça, puis c'est comme si je m'accordais bien dans ce style de personnage-là. Et puis bon, après l'école, on a commencé à se fréquenter, j'allais chez eux, on allait au parc, puis lui me faisait rencontrer ses chums, puis tout ça. Puis c'est là que ça a commencé que, pour m'afficher avec eux, ben là, il a fallu que je fasse comme eux, parce que peu peu pas, il y a comme un prophète qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Si tu fréquentes des gens qui sont sages, tu vas devenir sage. Mais si tu fréquentes des débauchés, ben, tu vas devenir comme eux. Alors, moi, j'avais décidé de suivre ce style de personnage-là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai dit « Ah, moi, j'ai de l'alcool, ça ne fait rien. » J'ai dit « Ah oui, ok. » Et puis à un moment donné, il y avait un de mes amis qui était, son père travaillait dans l'or, il avait une grosse maison, puis de tout ça, puis son père, sa mère était parti. Là, on a été chez eux, puis on a été chez eux, puis tout à coup, il a ouvert le bar. Là, c'est là que j'ai dit, ah, moi, j'ai déjà bu, mais ça ne me faisait rien. Mais moi, je disais ça pour m'afficher, me montrer. Et puis là, c'était ma première expérience avec l'alcool. Je me souviens qu'ils ont ouvert des bouteilles de Bacardi, du rhum, de vodka, puis toutes sortes de bouteilles, puis ils m'ont donné un verre de chaque. Là, je buvais une gorgée de chaque, tout ça. Puis quand j'ai fini de boire, là, je voyais plus rien, j'étais tout étourdi. Puis là, ils m'ont emmené dans le parc, ils me faisaient écrire mon nom à terre. J'étais vraiment, là, ma première expérience avec l'alcool. Puis quand j'arrivais chez moi, je voulais pas que mes parents le sachent. Fait que là, j'ai passé par en arrière, et puis en passant par en arrière, là, j'ai rentré tout de suite, je me suis couché dans ma chambre, puis le lendemain matin, quand je me suis levé, mon père m'a dit, c'est quoi, là, c'est-tu des Italiens qui t'ont fait boire, là? J'ai dit non. J'ai dit, ben, j'ai mangé du chocolat avec de l'alcool dedans, puis ça donnait l'exemple que ça sentait l'alcool dans ma chambre. Puis je donnais une défaite comme ça, mais mon père n'était pas si idiot que ça, il a compris que j'avais pris la boisson. Et puis là, j'ai commencé aussi à fumer la cigarette. Et puis au début, c'était plaisant, bon, ça me donnait des étourdissements, puis c'était une expérience que je voulais faire, m'afficher pour ressembler à un modèle que j'avais choisi de vouloir être, pour être comme le groupe avec qui j'étais. Et puis là, ça a commencé comme ça, et puis là, j'ai commencé à écouter de la musique rock, de la musique dans ce temps-là, c'était de la discipline, puis de la musique du groupe Kiss, puis toute cette musique-là, et puis je mettais ça dans mes oreilles à journée longue, et puis j'écoutais cette musique-là, puis là, j'ai commencé à fumer de la marijuana. Ça, c'est en secondaire 1, j'avais à peu près 12 à 13 ans, secondaire 1, secondaire 2, et puis là, mon frère, lui, il était un an en plus en avant que moi. Lui, il était déjà rendu à être un faucheur. Un faucheur, c'est une personne qui vend de l'alcool. Et puis, dans l'école, qui vendait des joints pour 2 piastres, comme ça. Puis, moi aussi, je voulais faire ça, mais ça n'a pas marché, mon affaire, parce que ce qui arrivait, c'est que toute la veille qu'il m'avait donné, j'avais tout fumé. Fait que j'étais vraiment. Je sentais vraiment que cette chose-là commençait à prendre une emprise dans ma vie. Parce que, veux pas, tu commences avec une bouteille de bière, tu commences avec une cigarette, mais finalement, les années vont se suivre, et puis tu continues à boire, tu continues à fumer, et puis t'es rendu à 1 paquet par jour, t'es rendu avec 1 caisse de 12 par jour, puis ça continue toujours. Jusqu'à temps que tu te décides que tu veux plus cette sorte de vie-là. Et puis moi, j'étais arrivé comme ça, et là mes amis, les groupes ont... On se réunissait, puis souvent on faisait des trips de drogue, puis on prenait de l'acide, on prenait du THC, puis on faisait des petits pilules, on gobait ça, puis ça nous faisait rire pendant des heures, puis on s'en allait sur le bon voyage, on passait des nuits de temps à rire, puis à se droguer, puis à boire du vin, puis de la bière, puis des cigarettes, puis tout ça. Puis à chaque fin de semaine, on vivait une espèce de on avait hâte d'arriver à la fin de semaine pour pouvoir vivre ces choses-là. Et puis ça, on ne veut pas, ça magane ta vie. Et puis ça donne un effet aussi dans tes études. Tu n'as plus les mêmes pointages dans ton bulletin. Puis tu deviens un genre de personne droguée. Mais je ne voulais pas vivre une vie comme ça. Je voulais vivre une vie droite. Je voulais pas vivre cette vie-là. Et puis là, c'est alors qu'à l'époque, que j'avais 15 ans à peu près, que, en dedans de moi, il y avait un cri du cœur, comme on a lu le psaume 34, verset 7, qui dit, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. À ce moment-là, il y a comme eu un cri, parce que, moi, je vous dis que depuis mon enfance, j'ai toujours cru en Dieu. Parce que mes parents m'avaient été éduqués de ça. Et puis, mais j'ai toujours cru en Dieu. J'allais quelquefois à la religion dans laquelle on m'avait éduqué, mais ça m'a pas empêché de faire la vie de débauche que j'étais en train de mener. Mais je ne voulais pas cette sorte de vie-là. Je voulais vivre une autre sorte de vie. Une vie qui est prospère, qui est sérieuse, qui mange droit, tout ça. Mais je me sentais comme pris dans un étau, pris dans un piège. Et puis, c'est là que j'avais à peu près 15 ans, je me souviens, c'était un soir de l'Halloween, puis j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, viens m'aider parce que je ne veux plus vivre ce que je suis en train de vivre. Parce qu'à toutes les fins de semaine, il fallait que je chante pour aller m'amuser, c'était ma bière, la cigarette, mes joints, puis ma drogue, puis à toutes les fins de semaine, puis je travaillais, mais je travaillais juste. J'allais à l'école, je travaillais le soir, puis je travaillais juste pour payer mes dépenses dans la drogue et d'autres choses. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'étais arrivé au secondaire 3. À ce moment-là, j'ai changé d'école, j'étais arrivé dans une autre école, c'était du secondaire 3 au secondaire 5. Et puis au secondaire 3, j'ai commencé à fréquenter d'autres amis de la classe. Et puis, Il y avait un encore que lui, il était un peu straight. Ça veut dire qu'il prenait pas de verre, tout ça. Ben, il buvait de temps en temps, mais c'était une personne qui sortait pas beaucoup, qui était straight, tout ça. Fait que moi, j'ai commencé à fréquenter ce copain-là, puis ça m'aidait beaucoup pour me séparer de l'autre groupe, d'autre gang que j'avais. Mais de temps en temps, j'avais des rechutes. J'avais le goût de. Il y avait des fins de semaine, puis j'avais le goût de m'envoyer en l'air, puis là, je partais, puis je m'en allais avec eux, puis là, les autres, ils me donnaient de la drogue, là, je fumais, je buvais, puis je m'envoyais en l'air pour une fin de semaine. Après ça, j'en revenais, et puis là, je passais quelques temps avec ce copain-là. Et finalement, j'ai commencé à travailler dans un Texaco. Et puis dans le Texaco, je travaillais avec un jeune homme qui, lui, c'était un gars qui allait danser des discothèques, tout ça. Fait que là, moi, j'ai commencé à parler avec lui, on parlait, on s'est fait amis. Et puis, après des heures de travail, là, j'allais chez eux, puis là, ils me présentaient une autre sorte un groupe. C'est-à-dire que j'étais rocker, puis là, j'ai changé de rocker à disco. Alors, après ça, du disco, c'est même des discothèques, là, on va là, puis on danse, puis on s'amuse. Et puis, là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme réussi, dans un certain sens, à me débarrasser des drogues qui étaient assez fortes, mais je consommais encore la boisson et des cigarettes et un peu de marijuana. Et puis là, j'ai commencé à fréquenter ce nouveau groupe de gens qui étaient des discos que qui allaient danser les fins de semaine dans les discothèques. Et puis là, moi, je continuais toujours à chaque soir, parce que depuis ce moment-là, j'avais 15 ans, puis j'ai crié à Dieu un soir d'Halloween, j'avais décidé de faire ma prière tous les soirs avant de me coucher. Puis je parlais avec Dieu, comme je vous parle là présentement. Moi, des affaires de rituels, d'essayer de réciter des chapelets, des affaires comme ça, moi, ça m'intéressait pas. Moi, je parlais avec Dieu, je parlais avec Dieu comme je vous parle là aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça que Dieu veut quand c'est sincère dans mon cœur envers lui. Et puis là, j'avais continué toujours à prier à chaque soir. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, à un moment donné, ce nouveau groupe-là, il commençait à vouloir prendre les drogues que moi je prenais quand j'avais 15 ans. Là, j'étais rendu à 16, 17 ans, 18 ans presque. Là, tout il commençait à prendre ces drogues-là. Puis là, moi, je leur disais, mais non, je suis pas bon, j'ai déjà pris ça, puis tout ça. Puis là, finalement, veux pas, t'es dans un groupe, et tout le monde font le trip, tout le monde veut faire le party. Alors, veux pas, la chair est faite. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. C'est comme un cercle vicieux. Puis, étant donné que j'étais dans le même groupe, je tombais avec eux, puis je prenais de la drogue avec eux. Puis là, j'ai descendu encore plus bas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais rendu que je prenais de la cocaïne. Là, c'est devenu des drogues encore plus fortes que qu'est-ce que je prenais avant. Puis là, j'étais devenu comme un peu mélangé dans mes pensées, dans mon esprit. J'allais dans les discours. Puis là, je peux vous dire aussi que mon besoin, parce que moi, je voyais mon frère avant, puis lui, ce qu'il y avait, c'est qu'il avait fréquenté une fille, puis il restait en appartement avec elle, puis il menait une vie assez stable. Puis là, moi, j'enviais qu'est-ce que lui vivait, puis je voulais, comme on dit, je voulais sortir avec une fille. Alors là, je m'arrangeais, j'allais dans un salon de bronzage, je mettais des pantalons serrés, moi, je m'habillais tout avec des chaînes, tout le kit, pour essayer de poigner. Mais essayer pour que les filles me regardent et qu'ils sortent avec moi, mais ça marchait pas. Je comprenais pas. Pourtant, mes chums étaient pas si beaux que ça, puis ils poignaient comme ça, puis moi, je faisais tout pour prendre, mais ça marchait pas. Puis là, j'arrivais, comme je vous disais tout au début, j'étais une personne qui était gênée. Alors, pour me dégêner, ce que je faisais, c'est que avant de sortir de la discothèque, je buvais peut-être deux, trois bières avec un petit verre de boisson, puis là, quand j'arrivais dans une discothèque, là, j'étais réchauffé pour danser, je me sentais comme dégêné. Parce que les drogues me donnaient comme une espèce d'évasion qui me faisait que je faisais rire le monde. Moi, j'étais le genre de personne que je faisais rire le monde autour de moi. Et puis, je me souviendrai toujours d'une histoire que m'avait racontée. C'est un gars qui est allé voir un psychiatre, et puis il y avait beaucoup de problèmes. Puis le psychiatre essayait de résoudre ses problèmes, mais il n'était pas capable. Finalement, le psychiatre, il a dit au gars, il a dit, écoute, il y a un cycle là, qui vient d'arriver au coin. Puis ça a l'air que dans le cycle, il y a un clown qui fait rire tout le monde. Puis moi, je te conseille, vas-y, puis tu vas voir, il va te faire rire, ça va te changer des idées. Et puis là, le monsieur, il a regardé le petit garde et dit, monsieur, le clown, là, c'est moi. Et bien, c'est ça que j'étais, moi. J'étais une espèce de clown qui, quand il est en boisson, en vol, faisait les autres. Puis quand la soirée était finie, moi, je revenais chez moi. Et puis, je m'assoyais sur le bord de mon lit. Puis, je pleurais. Parce que j'avais tout dépensé mon argent. J'avais tout consommé dans la drogue. Il ne me restait plus rien. J'étais triste parce que j'avais pas personne. J'avais beaucoup d'amour à donner à une femme, mais je ne pouvais pas jamais parce que ça pognait pas mon affaire. Soit que j'étais trop... qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand j'arrivais dans la discothèque, j'étais réchauffé déjà avec la boisson et tout ça. Là, dès le milieu de la soirée, ce qui arrivait, c'est que, et vu que je pognais pas, là, je continuais à boire, là, je tenais sous. Là, je faisais encore plus de gorlo. Là, toutes les filles m'encadraient et riaient, mais ils ne voulaient rien savoir de moi. Et puis là, j'ai vécu comme ça. On était ça, mais quand moi je vivais cette expérience-là, c'était vraiment quelque chose de triste. J'étais comme, tu sais, on est 7 milliards sur la Terre, mais tu savais-tu que dans les 7 milliards sur la Terre, il y a des gens qui souffrent de solitude. Pourtant, on est 7 milliards, ça regarde pas, le 7 milliards, c'est beaucoup de monde, et plus. Et puis il y a des gens qui souffrent d'une solitude profonde. Parce que la Bible dit qu'il y a comme un vide dans notre cœur que c'est seulement Dieu qui peut le remplacer. Tu peux essayer de prendre toutes sortes de choses, de ce que le monde peut t'offrir aujourd'hui, les plaisirs que le monde t'offre aujourd'hui semblent au début attrayants, mais à la fin, il finit par te mordre comme un serpent, comme une vipère, puis il t'empoisonne. Il empoisonne ton âme, puis non seulement il t'empoisonne toi, mais il empoisonne ton entourage autour de toi. Parce que tu deviens haïssable, tu deviens une personne qui plus est mal. Et puis c'était ça qui m'arrivait. Et je voyais que ma vie s'en allait, j'avais à l'époque 19 ans, et puis je ne voulais plus vivre cette vie-là. Je voyais que depuis l'âge de 12 ans, imaginez, à 12 ans, j'étais assis dans un club de danseuses nues avec une bière dans mes mains. J'avais seulement 12 ans. Puis de 12 ans aller jusqu'à 19 ans, 20 ans, j'ai vécu une vie qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait, mais à la fin, ma vie commençait à descendre parce que j'étais rentré dans les drogues fortes, la cocaïne. Puis je sais pas si vous avez entendu dernièrement les témoignages d'un ancien ministre qui était pris avec ce problème-là. La cocaïne, cette drogue-là? C'est que ça attaque le nerf qui est en toi, ce nerf-là, c'est lui qui contrôle les impulsions sexuelles. Alors c'est comme si tu deviens en amour avec cette drogue-là. Et puis tu es prêt à vendre ta chemise, ton chandail pour aller sniffer une ligne de cocaïne. Tellement que c'est une drogue qui est très puissante. Et puis ça commence petit peu par petit peu. Et à la fin, t'es pris comme dans une cage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette enseigne-là, qui te montre la croix, le Saint-Esprit, la Bible, et puis les portes de la prison qui sont brisées par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est ça que j'étais comme dans une prison. J'étais prisonnier de mes plaisirs. Au début, ça devait être amusant, mais à la fin, c'était plus bien amusant pour moi. C'était triste. Je me sentais prisonnier de mes péchés. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, que celui qui se livre au péché est esclave du péché. J'étais devenu esclave de la drogue, esclave des plaisirs du monde, esclave de la musique du monde, esclave des plaisirs que le monde peut offrir. Puis finalement, j'étais dans mon âme desséché. J'avais une soif, mais je savais pas où la trouver. Et puis c'est là qu'à l'âge de 20 ans, je crois, j'avais 20 ans, j'ai crié. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment crié un cri sincère à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-moi ce que tu es, parce que moi, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes me délivrer de cette prison à laquelle je suis présentement. Je veux plus vivre une vie comme ça. Et puis, ce qui est arrivé, j'ai prié vraiment sincèrement. Et puis, quelques temps après, c'est une des tantes d'un ancien copain que j'avais qui m'appelle comme ça, qui m'avait jamais appelé, mais qui m'appelle. Et puis, je me dis, quand tu vraiment t'es sincère avec Dieu et tu cries le cœur sincère, attends-toi à ce qu'il y ait un miracle qui se passe dans ta vie. parce que moi, je sais ce qui m'est arrivé. Et puis dans la vie chrétienne aussi, c'est ce qui m'arrive à chaque moment que je crie d'un cri sincère, un cri du cœur, comme on appelle. Que seul Dieu peut comprendre, que personne ne peut comprendre, même ton mari ou ta femme ne peut pas comprendre, mais que toi, tu cries à Dieu, un cri sincère, puis Dieu, lui, va bouger les choses. Et puis c'est ce qui est arrivé. Moi, après, il y a la tante de mon copain qui ne m'a jamais appelé, qui m'appelle, et qui me dit quoi? Qui me dit, j'ai une fille à te présenter. Je dis, ah ben là, ça tombe dans mon affaire. Une belle fille à te présenter, c'est dans le mois de février, dans le temps de la Saint-Valentin. Prépare-toi, puis elle m'a rappelé au début du mois de janvier. Fait que je dis, c'est correct. Fait que là, à l'époque, moi, j'avais commencé à m'entraîner au centre de l'Opiard, je faisais des exercices. Puis je passe une semaine avant, on appelle ça un blind date. Ça veut dire que tu rencontres une rencontre aveugle, tu rencontres une fille, tu l'as jamais vue, tu l'as jamais vue, puis c'est les parents de la fille, puis ainsi de suite. Et puis là, moi je faisais l'exercice, puis à un moment donné, je me suis foulé une fille, puis je me suis retrouvé avec une jambe dans le plat. Puis là, il fallait que j'aille rencontrer la fille, mais comme je dis, non, je vais pouvoir rencontrer la fille avec une jambe dans le plat, ça peut d'aller. Et puis là, pour voir aussi qu'aujourd'hui, quand j'arrive en arrière, je vois vraiment que Dieu avait préparé un chemin pour moi, mais que Satan aussi voulait m'empêcher de rentrer dans le chemin que Dieu avait préparé pour ma vie. Et puis là, j'avais une jambe dans le plat, et puis la journée du rendez-vous, ça ne me tentait plus d'y aller, parce que je ne voulais pas me présenter avec une jambe dans le plat. Fait que là, j'ai appelé la tante de mon ancien copain, pour lui dire que je cancelais tout, que je ne voulais pas y aller. Là, quand je l'ai appris, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? On t'attend, ta fille est belle, puis viens, ouais, mais je dis, j'en ai pas, mais c'est pas grave, viens, toi. Puis finalement, elle a réussi à me convaincre, puis là, j'ai dit, ok, là, j'ai pris ma douche, je me suis arrangé, puis là, j'étais allé. Et puis, j'étais allé chez elle. Les parents de la fille sont venus nous chercher chez elle, puis on est allé à Longueuil, parce qu'il restait à Longueuil. Et puis, quand j'étais arrivé chez la fille, quand j'ai vu la fille, moi, ça a été le coup de foudre. La fille était très très belle, très jolie, et puis moi je me disais en tant que moi, je disais, hey, si je peux l'avoir ça là, ça peut être bien. Et puis là, je me suis, on s'est assis, puis là on parlait, puis ils nous avaient invité à souper, fait qu'on a soupé, tout ça, puis là on parlait, puis à un moment donné, vers la minute de la soirée, tout à coup, la mère de la fille commence à me témoigner qu'est-ce que Jésus a le fait dans sa vie. Moi, j'avais toujours cru en Dieu, puis je priais Dieu. Mais c'est comme si la façon qu'elle parlait, je trouvais que son Jésus, à elle, était vivant. Elle n'avait pas seulement à l'église, mais c'est comme si elle avait mis dans toute sa vie quotidienne. Elle dit, oui, le Seigneur, il a fait ça pour moi, puis il m'a délivré de ça, puis il fait ça pour moi, il fait ça, mais là, je me souviens plus de ce qu'il avait fait. Mais je sais qu'elle beaucoup de choses que ce que le Seigneur faisait dans sa vie personnellement. Et puis là, moi, ça m'intéressait d'entendre ces choses-là. Puis après ça, quand elle a fini de parler, là, c'est la fille même qui commence à dire oui, moi, le Seigneur, il a fait. Elle commence à me témoigner qu'est-ce que Dieu avait fait dans sa vie, qu'il avait délivré, tout ça. Puis là, ça m'intéressait d'entendre ces choses-là. Puis je me souviendrai toujours, le soir, quand ils ont venu m'en à la maison, là, avant de partir, la fille m'a donné son numéro de téléphone. Là, moi, j'ai rentré chez moi, puis là, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, on va bien ensemble, mais elle croit en soi, puis moi aussi, ça va aller bien ensemble. Oui, je pense bien, j'étais dans la chambre, c'est ça qu'elle a dit. Et puis là, bon, là, j'ai appelé la fille, mais j'ai remarqué que je l'appelais, mais elle ne m'appelait jamais. Moi, je l'appelais, puis elle ne m'appelait jamais. Puis un moment donné, on est sortis, on est allé voir ses amis à elle, tout ça. Et puis quand je l'appelais, elle ne m'appelait jamais, mais moi, je l'appelais, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai compris que ça ne marchait pas l'affaire, que je devais l'oublier, puis c'est fini là. Et puis là, j'ai arrêté de l'appeler. Là, un mois a passé, mais là, puis entre-temps, parce qu'à chaque fois que j'allais voir la fille, elle était chez sa mère, il me parlait d'évangile, il me parlait de Jésus. Et puis là, moi, je me disais, bon, mais il faudrait bien que je commence à lire ça, le petit Nouveau Testament. Là, je m'en achetais un petit Nouveau Testament Gédéon. Ben, on me l'avait donné parce qu'il ne vend pas ces livres-là. Et puis, j'avais commencé à lire ça. Ça faisait un mois que j'avais plus de nouvelles d'elle, puis qu'elle m'appelait plus. Puis, moi, je vous dis, avant que je rencontre cette fille-là, dans ma recherche personnelle avec Dieu, il y avait un de mes cousins qui était embarqué dans le mouvement, je sais pas, on entend tout ça parler de pas longtemps, les Raéliens, là, ceux qui croient sur l'OVNI, le secours volant, là, qui, tout ça. Puis, il me parlait de tout ça, puis moi, je cherchais j'avais, je croyais en ça, que les extraterrestres, tout ça. Puis, j'avais commencé à lire ces livres-là, mais j'avais remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'opposition autour de moi, fait que là, j'avais laissé tout ça, j'avais laissé tomber ça. J'ai suivi ça peut-être pendant un mois et demi, deux mois, et puis là j'ai tout laissé parce que je voyais qu'il y avait trop d'opposition dans ma famille. Et puis là, j'en reviens à ce que je disais, la fille, elle m'appelle au bout d'un mois. Elle me dit, allô, comment ça va bien? Je dis, ah oui, ça va bien. Elle dit, je t'appelais pour te demander, t'inviter à venir à notre tente pour une réunion qui va avoir, une réunion spéciale qui va avoir dimanche soir prochain. Fait que là, moi, j'ai dit, tente. Ok, je vais y aller. Mais moi, j'y allais pas pour ça, mais j'y allais pour la fille. Je voulais un peu avec elle, tu sais. Et puis, c'est comme ça, c'est arrivé. Et puis, là, le dimanche matin, je me souviens, parce que, étant donné que j'avais été persécuté ou j'avais été beaucoup dérangé, puis j'avais commencé à suivre le mouvement des Raéliens, puis j'avais laissé tout ça. Là, je voulais pas m'embarquer des autres patentes, des autres affaires, des autres sectes, tout ça. Fait que là, moi, le dimanche matin, je me suis levé, puis on restait juste à côté de l'église, en bas de chez nous. Le bord de la rue, là, j'étais allé à l'église, j'allais jamais à l'église, mais j'étais allé ce dimanche-là, puis là, j'écoutais le prêtre prêcher en avant, tout ça, là, puis... Parce que moi, je voulais pas me faire embarquer dans le dos, autre patente, comme on disait. Et puis là, le dimanche-là est arrivé, je m'en vais, c'était au centre évangélique, sur la rue Papineau, 1455, rue Papineau. Et puis là, je rentre là, et en rentrant, j'ai trouvé que l'ambiance était beaucoup différente, parce que les gens applaudissent des mains. Les gens étaient debout, puis ils tapaient des mains quand ils chantaient. Là, le pasteur de l'air commence à animer les chants, puis tout ça, puis là, les gens qui se lèvent, puis ils commencent à taper des mains. Pourquoi la fête du matin? Et puis là, moi, je trouvais qu'il y avait de l'amour dans l'église. Il y avait quelque chose de différent, que je ne savais même pas si existait ces choses-là. Mais il y avait quelque chose qui me touchait. Là, la fille, là, c'était tout ça qui m'intéressait, mais c'était qu'est-ce qui se passait autour de moi? Puis, je me souviens toujours qu'il y a une femme qui a prophétisé ce soir-là. Puis, la prophétie disait, je suis ton berger, tu es ma brebis et tu m'appartiens. Et puis, cette prophétie-là, moi, je savais pas pourquoi, mais c'est comme si la parole qu'elle disait m'avait tellement touché que j'ai passé à pleurer. Puis, je savais pas pourquoi je pleurais, je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait là, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que je vivais qui n'était pas normal. Et là, ça restait comme ça, puis là, la réunion est finie. Ben, c'est-à-dire, là, le monde s'est assis, puis tout à coup, il y a eu un temps de témoignage. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'est levé dans l'assemblée, qui témoigne, je me souviens plus de son témoignage, mais il y a un autre jeune homme qui se lève debout en avant, ben, là, il commence à témoigner, il dit oui. Il dit, moi, ça fait 7 ans que je suis le Seigneur, puis j'étais dans la drogue, puis je prenais de la drogue, puis j'étais esclave, puis ceci, puis cela, puis Dieu m'a délivré, Dieu m'a changé, puis pendant que lui, il témoignait, c'est comme s'il y avait une voix dans moi qui me disait, mais si Dieu le fait pour lui, il peut le faire aussi pour toi. Puis là, moi, j'étais assis, puis j'écoutais ça, puis là, après ça, le gars s'est assis, il y a un autre témoignage, tout ça, mais c'est ce témoignage-là du gars qui m'avait vraiment frappé. Mais si Dieu avait fait quelque chose pour lui, il pouvait le faire pour moi aussi. Et puis là, le pasteur a prêché, puis à la fin de la prédication, il a fait un appel. Il a dit, ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel, qui s'avance à la rue. Puis là, il y a un petit peu de monde qui s'est avancé. Il y a d'autres monde aussi qui a voulu, pour venir prier. Puis moi, je me souviens, j'étais assis dans mon banc, puis là, j'étais penché comme ça, puis là, c'est comme s'il y avait un combat. Il y avait une voix qui me disait, va en avant, en fait, prier pour toi. Et puis, il y avait mon voix qui me disait, non, reste là, t'es bien. Et puis, il y a une autre voix qui disait, va en avant, reste ici. Puis, il y a une autre voix qui me disait, non, reste là, reste assis. Va en avant, reste là, reste assis. Va en avant, puis, pendant au moins 5 à 10 minutes comme ça, je vivais un combat dans ma place. Puis, finalement, je ne me suis jamais avancé en avant ce soir-là. Puis là, la réunion a fini, on est allé au restaurant, et puis, ils m'ont demandé comment je trouvais ça. J'ai trouvé ça bien, oui, c'était bien, tout ça. Et puis là, j'ai reparti chez moi. Mais là, pendant la semaine, eux, ils ont prié pour moi. Ils ont prié parce qu'ils ont vu que ça m'avait touché. Puis il y avait quelque chose qui s'était passé. Puis moi, de mon côté, ça m'intéressait de se retourner. Maintenant, ce n'était pas pour retourner pour la vie, mais c'est parce que j'avais senti qu'il y avait quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Puis on parlait souvent de Jésus dans cette place-là. j'aimais les choses de la Bible parce que moi je vous dis aussi que à cette époque-là, j'avais une peur d'une attaque nucléaire. J'avais peur de la fin du monde. J'avais peur des. Mon jeune des frères avait montré des versets dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui disait que le chiffre de la terre, 666, puis la terre tremblait, puis le soleil était tombé, puis tout. Ça me faisait peur, ces choses-là. Ça me faisait peur de voir qu'est-ce qui, la fin du monde. Puis là, dans ce temps-là, c'était Ronald Reagan avec l'URSS qui était comme en conflit. Puis là, on parlait beaucoup de tout ça à cette époque-là. Puis j'avais peur d'une attaque nucléaire, puis je me disais, ben, à un moment donné, on va tous mourir, à un moment donné. Puis je cherchais à comprendre, à savoir, mais qu'est-ce que c'est la vie sur la terre? Parce que, veux pas, la Bible dit même que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Veux pas, une personne doit se poser ces trois questions-là dans sa vie. C'est d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici sur la terre, puis où est-ce que je m'en vais après la mort? Veux pas, ces questions-là, tu vas te les poser quand même. Que tu essaies de noyer ça dans la boisson, que tu essaies de noyer ça dans les plaisirs, dans l'argent, dans toutes ces choses-là, mais dans le cœur de l'homme, il y a ces questions-là qui se posent. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Puis où est-ce que je m'en vais après la mort? Puis c'est ça qui me tangassait, moi, dans ma vie. Et puis là, j'ai parti de cette réunion-là, ce soir-là, j'étais allé chez moi, et puis pendant la semaine, ça me tracassait, je voulais que je retourne, mais je voulais retourner, pas pour la paix, mais parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Et puis là, j'ai retourné, la même chose s'est reproduit, j'ai rentré dans l'assemblée, et puis là, les gens ont commencé à témoigner. Le même gars sur l'air, il a témoigné, le même témoignage, là, ça m'a touché encore, tout ça, le pasteur a essayé de prêcher. Mais là, quand il a fait l'appel, il a dit, s'il y a des gens qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie, qui viennent en avant, là, ce soir-là, j'ai pris la décision, je me suis avancé. Et j'ai venu en avant, et puis quand je me suis mis à genoux sur l'autel, j'ai fondu en larmes. Puis c'est comme s'il y avait un fardeau de 500 livres là, qui sortait de mes épaules. Et puis il y a un pasteur de la jeunesse qui est venu, c'était Jean-Claude Foucault, il a mis sa main sur moi, il a dit, tu es à la bonne place. Là, il a fait une prière de repentance avec moi, puis moi j'étais en larmes, je pleurais, et je me repentais devant Dieu, parce que c'est comme si le pasteur avait dit que Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous, qui sommes sur la terre, on n'ait plus à subir le châtiment de l'enfer, le châtiment de la géhenne, le châtiment de nos péchés, mais Christ l'a porté une fois pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en l'œuvre que lui a faite sur la croix. De croire à ça, et puis c'est gratuit. Aujourd'hui, tu payes pour toutes sortes de choses. Il n'y a rien de gratuit dans le monde. Mais Dieu lui donne la vie éternelle gratuitement. Laisse-toi la vie éternelle gratuitement. Ça te coûte. Qu'est-ce que ça va te coûter? Tout ce que ça va te coûter vraiment, c'est ton orgueil. Parce que il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur devant Dieu. Si tu vas à l'hôpital, tu es malade, le docteur va arriver, il va te donner un diagnostic, il va te dire, tu as telle maladie, il faut que tu prennes tel remède pour être guéri. Si tu le prends, tu vas être guéri, si tu le prends pas, tu vas mourir. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le prends ou tu le prends pas? Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'Évangile. Dieu est le grand médecin, il a envoyé son Fils nous dire qu'on est tous des pécheurs, qu'on est tous malades, et que le remède pour notre péché, pour notre maladie, c'est de prendre le sacrifice que Dieu a fait sur la croix pour nous, de le prendre dans notre vie personnelle, de reconnaître que nous sommes pécheurs, de se repentir de nos péchés, et puis Dieu dit que Dieu nous envoie sa grâce, et puis il nous sauve. Par la grâce, on est sauvés. Et puis ce soir-là, j'ai compris que, ben, j'ai pas tout compris en général qu'est-ce que c'était l'Évangile, mais quand je me suis levé, que j'ai sorti de cette église-là, j'étais sauvé. J'étais une nouvelle créature, parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Tu peux pas rester la même personne. Tu peux pas dire que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, et puis t'es encore dans ta drogue, t'es encore dans les plaisirs du monde, t'es encore dans les vieilles choses d'autrefois, là tu peux pas. Il faut qu'il y ait une transformation. Quand il y a vraiment une repentance, il y a une vraie transformation, que le Saint-Esprit commence à opérer dans ta vie. Et là, j'ai décidé de commencer à opérer en moi un changement. Ma vie a commencé à changer. Je devenais plus souriant. Tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de ces droits-là pour rire. J'avais plus besoin de prendre des joints pour m'amuser. J'avais plus besoin d'aller dans le disco. C'est comme si mon cœur était tout ce que j'avais à donner pour une femme, mais je l'ai donné à Dieu. Mon cœur s'est donné à Dieu. J'ai dit, Seigneur, vraiment aujourd'hui, je comprends c'est quoi la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas passer par une religion, tu ne peux pas passer par un pasteur, tu ne peux pas passer par n'importe quoi, c'est Jésus que tu passes par Jésus-Christ pour le sauver. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à suivre l'Évangile, j'ai commencé à m'impliquer dans l'Église, parce que c'est pas tout de venir en avant, de faire une prière, et d'avoir ça que tu retournes dans tes anciens péchés, non. Il faut que tu t'impliques. Il faut que, si vraiment ton cœur te donne à Dieu, Dieu va te mettre dans ton cœur un désir de te servir, un désir de vouloir le suivre, un désir de vouloir t'impliquer dans l'Église, de faire quelque chose pour Dieu. Parce que tu trouves maintenant que les choses de Dieu sont plus intéressantes que les choses que le monde peut t'offrir. Mais si aujourd'hui, c'est le contraire qui t'arrive, c'est parce qu'il y a un problème avec la communication que tu as avec Dieu. Puis, ce qui est merveilleux que j'ai découvert, c'est que j'ai pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un prêtre pour parler avec Dieu. Non. Je peux être à mon travail en train de travailler, puis je parle avec Dieu. Je peux être chez moi, dans ma chambre, en train de parler avec Dieu. Je peux être dans mon auto, en train de prier Dieu. C'est ça qui est merveilleux, parce que Dieu, il est là 24 heures sur 24, 365 jours par semaine. Il est là tout le temps, donc tu lui parles tout le temps, il a adressé une prière. Tu n'as pas besoin de toujours de te mettre à genoux pour faire des grandes prières. Non, des fois, tu es dans l'autobus, en train d'attendre l'autobus, et puis tu peux adresser une prière à ton Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu m'as donné une nouvelle vie. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est un miracle que tu as fait dans ma vie. C'est un miracle parce qu'aujourd'hui, je peux témoigner qu'est-ce que Dieu a fait dans mon cœur. J'étais perdu dans mes péchés, dans la mort, et aujourd'hui, je me rends compte vraiment que Dieu a fait une transformation. Et puis les années ont passé dans l'Évangile, les années ont passé, puis j'ai commencé à m'impliquer, puis le Seigneur a mis sur ma route une sœur haïtienne, et puis j'ai resté chez elle pendant presque 16 ans de temps. Avec elle, bon, on était en mission, j'étais allé trois fois en Haïti, j'aime beaucoup le peuple haïtien. D'ailleurs, le Seigneur m'a fait la grâce de me marier avec une haïtienne. Et puis, vraiment, ce peuple-là, il m'a beaucoup aidé dans ma marche avec le Seigneur. J'ai commencé à me consacrer avec Dieu dans la prière, dans le jeûne, pour aller faire le travail missionnaire à Haïti. J'étais allé un peu partout. J'étais allé à Guadeloupe, Saint-Martin, à Martinique, dans les Bahamas. Puis chaque année, j'allais à Miami. Puis on voyageait comme ça, on faisait le travail du Seigneur, et puis Dieu ouvrait des portes, et puis c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai rencontré le pasteur Joe avec son épouse. À ce moment-là, son église était dans sa maison, sa 5e avenue, dans son sous-sol. Mais bon, Seigneur, aujourd'hui, c'est merveilleux de voir qu'il est resté calme, il est resté persévérant, puis aujourd'hui, vous êtes le fruit de sa persévérance. Gloire à Dieu. Et puis vraiment, aujourd'hui, je veux témoigner l'Évangile. Pour moi, le mariage, c'était quelque chose qui était comme loin, c'était pas possible, parce que moi, quand j'ai pris l'Évangile, dis-moi, j'ai pas besoin de me marier. J'avais pas de marier. Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions quand j'étais dans le monde avec des filles, tout ça. Les filles voulaient rien savoir de moi, puis je pense pas que dans l'Évangile, les filles vont voir que je savais quelque chose de moi. Alors, ça restait comme ça, mais les années ont passé. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne peux pas rester seul, parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, le Seigneur ouvre les portes, et puis je me suis marié, je viens de me marier justement au mois de juin, le 22 juin qui vient de passer. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon épouse, qui est Mireille Poncel, avec sa fille Yasmine, si tu te lever chez nous. La plus belle haïtienne! Amen! Et puis, c'est ça, c'est un peu ça mon témoignage que Dieu avait mis sur mon cœur de vous partager. Vraiment, la vie dans le Seigneur, c'est la meilleure vie qui doit être vécue. Puis, regardez-vous comme privilégié de ce que vous entendez aujourd'hui l'Évangile. Parce qu'il y a bien du monde dehors qui aimerait entendre c'est quoi la vérité. Ils sont comme sous une espèce de pollution spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes de monde qui croit à n'importe quoi, qui croit à toutes sortes de choses. Puis nous, on est là ce matin. Peut-être que le local n'est pas attirant, mais c'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, lui, c'est ce que tu as dans ton cœur. Et ce qu'il veut vraiment dans ta vie, c'est pas tes œuvres, mais ce qu'il veut, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et quand tu lui donnes ta vie, laisse-moi te dire que ta vie, entre les mains de Dieu, ça vaut quelque chose, que Dieu peut faire des miracles avec toi et peut te transformer à tel point qu'aujourd'hui, j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais pour parler le créole, mais je parle le créole. Je chante le créole. Je prie en créole. Dieu a toutes sortes de projets pour nos vies, et puis il y en a aussi pour ta vie. Que Dieu te bénisse.